est, pour la première fois depuis le début du quinquennat, le gouvernement se heurte à un conflit social de grande ampleur.
Une grève dure, c'est une chose d'en parler, de l'annoncer. C'en est une autre de la voir et de la vivre.
Les Français sont majoritairement pour la réforme. Ils ont élu Emmanuel Macron.
Tout ce que je fais, je l'ai dit. Je l'ai expliqué.
Alors, on entend parler de culture de la grève et même de gréviculture. Le terme a été exhumé par un député La République En Marche. Les Français font-ils plus la grève que les autres?
La réponse est oui.
On est en train de détruire complètement le secteur de la justice. Complètement.
On s'est réunis pour éviter l'évacuation de Tolbiac. Je pense que c'est très bien qu'on soit très nombreux.
Cheminots en colère! Grève générale!
Comme un bruit qui court!
T'as pas entendu comme un bruit?
Comment? Vivent-ils?
Charles Perry.
Antoine Chao.
T'as pas entendu comme un bruit?
Comme un bruit qui court!
Comment?
Samuel Gontier, bonjour.
Bonjour.
Toujours journaliste de canapé, ça c'est vous qui le dites. Ma vie au poste, c'est le nom de votre chronique et de votre blog sur le site de Télérama. Et on vous avait sollicité, il y a de ça bientôt un an, parce qu'on avait regardé ensemble l'investiture d'Emmanuel Macron en direct et en simultané sur toutes les chaînes d'information. Parce que c'est ça votre spécialité. Vous n'allez pas voir les grandes émissions, les grands rendez-vous, mais c'est tout ce qui passe en continu dans ces chaînes de flux qui donnent le la médiatique de l'actualité, du traitement de l'actualité, et en particulier avec les mouvements sociaux en cours. Et là, il y a vraiment une dissonance cognitive entre ce qu'on voit à la télé et ce qu'on entend quand on fait, comme ça nous arrive parfois, des reportages dans les mouvements sociaux sur le sens que veulent donner les gens aux mobilisations.
Oui, alors moi, je ne suis pas dans la rue, je suis devant ma télé, donc je suis moins dans la rue que vous. Ce que je vois surtout, c'est toujours les mêmes têtes qui tournent de débat en débat et de plateau en plateau, parce que c'est surtout ça que je regarde, de chaîne info en débat de talk show de France 5 ou de LCI ou de Canal+. Parce que le problème, c'est que ça tourne en rond, ce sont un peu toujours les mêmes qu'on rencontre sur tous les plateaux.
Il y a les noms, toujours, c'est Christophe Barbier, Raymond Soubi, Brice Teinturier.
Oui, parce que à force de les retrouver, ils me sont presque familiers.
Des personnages récurrents à côté de telenovela.
Ah oui, c'est vrai, ouais, ce sont des personnages récurrents, voilà, c'est ça. Et qui produisent à peu près toujours le même discours, surtout.
Brice Teinturier.
Effectivement, dans l'opinion publique, notamment chez ceux du privé, l'idée que c'est une grève qui est, en tous les cas, pour au moins la moitié d'entre eux, une grève avant tout catégorielle ou corporatiste. Pas de défense du service public, sinon on aurait des déferlantes dans la rue.
Raymond Soubi.
Ce que nous voyons là sur les mouvements dans les universités, c'est surtout des blocages dans des lieux traditionnellement très, très marqués à l'extrême gauche par des groupes qui sont en grande partie, pas tous, mais qui sont en grande partie d'extrême gauche. Donc c'est pas vraiment des myriades d'étudiants qui se déversent dans la rue.
Christophe Barbier.
Le mouvement de mai a débordé, non quand les étudiants occupaient les facs, comme maintenant, mais quand on les en a chassés, qu'on a fermé les facultés et qu'ils ont envahi le quartier latin et qu'ils ont dressé des barricades. Pour l'instant, ils sont plutôt dedans.
Et dans votre chronique, vous pointez un nouveau mot qui est apparu, un des marqueurs justement de comment l'actualité est racontée au quotidien, c'est la gréviculture.
C'est un terme qui remonte au 19e siècle, au temps des premières grèves quasiment du capitalisme industriel. Et voilà, c'est un terme qui avait un petit peu disparu effectivement. Et en fait, c'est un député de La République En Marche qui a prononcé le terme. Et tout de suite, tous les commentateurs, éditorialistes, présentateurs se sont jetés dessus en demandant à leurs experts, mais est-ce qu'il y a vraiment une gréviculture en France? Et à chaque fois, la réponse était oui. À chaque fois, il y avait des démonstrations chiffrées pour montrer qu'il y avait un nombre de jours de grève très conséquent en France par rapport aux autres pays. David Pujadas et sa collègue journaliste de LCI ont expliqué qu'ils avaient sorti un document absolument incroyable, et en fait ils ont expliqué que c'était simplement une page web du site de la SNCF qui recensait tous les jours de grève depuis 1947 qui ont eu lieu à la SNCF, et effectivement on s'apercevait qu'il n'y avait pas eu une année sans un jour de grève, et donc la France avait vraiment une gréviculture ancrée en elle.
Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit.
On entend parler de culture de la grève et même de gréviculture.
En finir avec la gréviculture, comprenez la culture de la grève. L'expression vient du secrétaire d'État au transport, elle concerne la SNCF.
Les cheminots cumulent à eux seuls entre un quart et un tiers des jours de grève en France. C'est ce que Louis Gallois, le PDG de la SNCF, a appelé la gréviculture.
Moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que si on sort de la gréviculture qui a fait pas mal de mal au train et au transport public, si on veut en sortir, il faut négocier sérieusement et que la négociation rapporte plus aux salariés que la grève.
Hier, je me suis mis en colère contre le porte-parole de En Marche qui, sur une radio concurrente, arrive et traite les cheminots de gréviculteurs.
Moi, je pense que ce qui est important, ça serait de peut-être de sortir dans ce pays de cette gréviculture.
Alors, Samuel Gontier, comme vous passez votre vie au poste, il y a des mots récurrents qui reviennent à chaque grande grève. C'est presque des marronniers maintenant, c'est la galère, les jours noirs. Alors là, on a une succession de journaux, un camaïeu de noir presque.
Oui, avec même Anne-Sophie Lapix qui a prévu que le mercredi, ce serait encore plus sombre que le mardi noir. Et donc, on se demande jusqu'où on peut aller dans la sombritude. Oui, il y a ces mots, il y a la pagaille, il y a la galère, effectivement. Et puis, par contre, moi, j'ai noté l'absence de la prise d'otage un petit peu. Là, c'est devenu un peu trop chaud, c'est temps.
Mais il était d'usage courant aux précédents mouvements sociaux.
Oui, jusqu'aux précédents mouvements sociaux, c'était tout à fait courant et jusqu'en novembre. Mais je pense qu'il y a eu un tournant, un incident de plateau entre François de Closet, qui était invité justement de David Pujadas, et un cheminot, représentant des cheminots, qui se trouve avoir été otage le 13 novembre au Bataclan. Et alors quand François de Closet lui a expliqué qu'il prenait les Français en otage, là, le syndicaliste lui a expliqué qu'il savait ce qu'était qu'une prise d'otage. Et du coup, ça a un peu refroidi tout le monde, je crois. Le mot gréviculture, justement, a peut-être remplacé la prise d'otage qui était un peu trop marquée. Et avec les attentats, les événements dramatiques qu'on a connus et les vraies prises d'otages qui ont eu lieu en France ces derniers mois, ces dernières années, les gens sont un petit peu plus précautionneux avec ce terme quand même.
Bonsoir Jean-Paul Chapelle.
Bonsoir Anne-Sophie.
Les Français font-ils plus la grève que les autres ?
La réponse est oui. Selon l'Institut syndical européen, elle arrive en deuxième position derrière Chypre. 359 jours de grève pour 1000 salariés. C'est une moyenne annuelle depuis 2010. Nettement derrière la France, 125 jours. La Belgique, 100 jours. Alors la France, bien au-dessus de la moyenne européenne, 40 jours.
Ça commence par plus, ça finit par jour.
Avec la galère sur les rails, épisode 2, retour déjà très mouvementé pour braver cette grève, voire surréaliste ici, regardez cette scène.
Une longue bousculade pour réussir à rentrer chez soi. Et des passagers qui, pour beaucoup, ne pourront pas monter à bord.
Et juste encore un mot sur les trésors d'inventivité que sont obligés de déployer les journalistes de Hard News, de News en continu, pour essayer de raconter la même information, somme toute assez basique. La grève a des conséquences pour les usagers dans les transports.
Effectivement, ça tourne en rond et on ne voit que des trains bondés à longueur de journée, des quais bondés et des journalistes qui essaient de s'infiltrer au milieu de cette cohue en expliquant que les passagers ne monteront pas tous dans le train, mais eux, les journalistes, réussissent à monter dans le train et expliquent que dans le train, on est vraiment très 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 serré, effectivement, parce qu'en plus, il y a une équipe de télé au milieu qui prend la place des usagers. Donc forcément, ça fait du monde en plus, c'est encombrant une équipe de télé. Voilà, et du coup, alors on fait le retour du soir, comment s'est passé le retour du soir, mais on revient sur les trains bondés de demain matin, on n'en sort plus et France 2, par exemple, a fait ça pendant 10 minutes de son journal, 10-15 minutes de son journal, et puis au bout de 15 minutes, Anne-Sophie Lapix annonce, et puis on a essayé de faire Paris-Saint-Etienne aujourd'hui, pour rendre compte de la galère des usagers, ce qu'ils venaient de faire pendant un quart d'heure. Et là, ils ont quand même essayé d'aller de Paris à Saint-Etienne un jour de grève, en partant non pas de Paris, mais d'une lointaine banlieue parisienne. Donc forcément, ça leur a pris la journée, et ça avait, forcément, il y avait de quoi faire un reportage.
Nos journalistes ont partagé la galère des voyageurs. Ils ont tenté de rejoindre Saint-Étienne en partant de Paris et sans réservation.
Au final, nous aurons mis toute la journée pour rejoindre Saint-Étienne.
C'est ça, c'est reportage embedded, c'est voyage en terre inconnue où on part à l'aventure.
On a l'impression qu'en fait, les problèmes dans les transports n'existent que les jours de grève. Alors effectivement, ça provoque de grandes perturbations et des grosses difficultés pour les usagers. Mais les cohues, les retards à la SNCF et la cohue dans les trains, il y en a quasiment tous les jours, malheureusement, aux heures de pointe en tout cas. Et là, les journalistes ne sont pas là pour les filmer.
La suite de BFM Story ce mardi noir n'est pas terminée. La galère continue ce soir.
Avec la galère sur les rails, épisode 2.
Grève et galère.
La même galère recommencera ce soir.
La galère.
Voilà, en gros, les cheminots feraient grève pour des broutilles. Alors ça, c'est Christophe Barbier qui dit ça, qui ne comprend pas que les cheminots actuels puissent faire grève pour les cheminots futurs. Et de même qu'il ne peut pas comprendre que les étudiants actuels fassent grève pour les étudiants futurs qui devront passer par Parcoursup. Voilà, la solidarité est quelque chose qui est étranger à Christophe Barbier, je crois.
Il est quand même curieux de voir les cheminots se battre pour défendre un statut qu'ils vont conserver, c'est leurs successeurs qui sont concernés, et de voir des étudiants bloquer des facs pour une sélection qui ne leur sera pas appliquée, puisqu'ils sont déjà en fac, ils sont déjà passés.
Mesdames et messieurs, on va s'y mettre tous ensemble. Au lieu de continuer à se porter des accusations en disant c'est la faute de la droite ou c'est la faute de la gauche, au lieu de continuer à démolir ce que l'autre fait, au lieu de défaire quand on arrive ce qui a été fait par les précédents, on va s'y mettre tous ensemble. Droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, 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 on va s'y mettre tous ensemble. Droite, gauche, gauche, droite.
Et alors, Samuel Gontier, la nécessaire pédagogie des Français à qui il faut expliquer la réforme.
Les Français sont un peu bêtes. Alors là, c'est encore quelque chose de récurrent. À chaque grève, à chaque réforme qui provoque un mouvement social, je me souviens, au printemps 2016, avec la loi travail, c'était exactement la même chose. C'était un problème de pédagogie. En fait, les Français n'avaient pas compris. On a beau leur expliquer, mais ils sont vraiment trop cons, excusez-moi de l'expression. Et donc, il faut toujours leur expliquer un peu mieux parce que vraiment, ils ne comprennent pas cette réforme à laquelle ils s'opposent. Alors, c'est souvent les éditorialistes qui expliquent ça. Donc c'est le message aussi du gouvernement qui explique qu'il va faire de la pédagogie. Mais du coup, c'est repris par tous les éditorialistes comme un seul homme. Mais moi, je n'appelle pas ça de la pédagogie. En plus, c'est juste de la communication. C'est juste relayer la communication du gouvernement qui martèle toujours les mêmes choses. Mais la pédagogie, c'est la manière de transmettre les savoirs, normalement. On répète indéfiniment le même message gouvernemental. De la même manière qu'ils ont l'habitude de parler au nom des Français, ils ont aussi besoin de dire que les Français ne comprennent rien, contrairement à eux. C'est vraiment, je trouve, très méprisant.
Il faut avoir beaucoup de dialogue, beaucoup de pédagogie, donner un sens, écrire un récit. Moi, je pense qu'il y a une pédagogie de la réforme à faire.
Mais il y a un travail d'explication et de pédagogie. Nécessaire. C'est toujours nécessaire d'expliquer les choses et de faire de la pédagogie.
Faire de la pédagogie, donc, pour éviter que les Français soutiennent de plus en plus les cheminots.
De la pédagogie.
De la pédagogie.
Moi, je pense qu'il y a une pédagogie de la réforme à faire.
Alors, toujours au poste, Samuel Gontier, on parlait des efforts déployés par les éditorialistes médiatiques pour que les Français apprennent la nécessité de ces réformes et comprennent surtout la nécessité de réformes. C'est des arguments qui sont mis en avant sur le coût de la grève. Le coût financier, déjà, mais aussi le coût humain.
Oui, alors là, c'est un élément qui est nouveau. Moi, j'avais rarement entendu. Alors, le coût financier, effectivement, ça, par contre, ça revient à chaque fois, à chaque conflit. Combien va nous faire perdre ce conflit? Combien ça va faire perdre à la nation, aux Français? Combien ça va coûter à leurs impôts? Et par contre, le risque physique de blessures, de décès causés par la grève, là, c'est la première fois que j'entends ça à ce point-là. Au départ, je pense que ça part d'une tribune dans Le Point ou sur l'Express qui disait qu'il allait falloir recenser les victimes du conflit. Et je ne sais pas pourquoi.
Et ça a pris.
Ça a pris. Tout le monde s'est jeté sur cette thématique. Tout le monde a essayé de recenser. Et voilà, dès le premier jour, mardi, il y avait deux blessés qui étaient tombés sur les voies. Et donc, du coup, ça commençait à faire des blessés. Et voilà.
Donc, il fallait faire réagir les gens là-dessus.
Il fallait montrer leur irresponsabilité aux syndicalistes qui étaient invités en plateau, en disant, mais vous ne pouvez pas continuer ce mouvement qui fait des blessés, qui risque de faire des morts. Et ensuite, on a même eu, jusque sur CNews, une médecin qui expliquait que le stress engendré par la grève, au-delà des chutes sur les voies, le stress engendré par la grève pouvait causer une baisse de l'immunité, des dépressions, voire des suicides quasiment. Sauf qu'il n'y a plus de train pour se jeter dessous.
La France va mal.
Oui, la France va très mal. C'est toute la France qui déprime à cause de la grève de la SNCF.
Et de la gréviculture des cheminots.
Voilà.
C'est News 8h42. La grève, ça provoque du stress, il faut le dire.
En plus, là, ce stress, il est négatif à tout point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, il est mêlé de peur. La peur de ne pas se réveiller, la peur d'arriver de rater son train, la peur d'arriver en retard au travail, la peur de se faire engueuler par son boss, la peur de ne pas rentrer chez soi, la peur de ne pas savoir comment gérer les enfants, où vont-ils être, comment ça va se passer. Donc il y a vraiment une peur. Et puis il y a ce sentiment d'impuissance. Et donc ça, c'est très mauvais pour la santé.
Et ça, on est passé des conséquences financières, après ça devient le coût humain, et après c'est le coût psychologique. Quoi. C'est comme s'il y avait une surenchère dans les arguments déployés pour essayer de convaincre les téléspectateurs de cesser de soutenir, puisqu'apparemment les quelques sondages semblent montrer que les Français, malgré tout, se sentent encore à peu près solidaires du sort de la SNCF. Mais voilà, il faut leur faire rentrer ça dans le crâne avec un crescendo d'arguments.
Oui, ça en devient effrayant, vraiment. Enfin, la grève devient vraiment un danger public. Et du coup, on en arrive aussi à des propositions que je trouve assez extrêmes, comme de vouloir réquisitionner les cheminots pour faire rouler les trains, ou même carrément envoyer l'armée. J'ai l'impression qu'on arrive à ça. C'est ce que dit par exemple Élie Cohen sur Canal+. Malheureusement, la loi ne permet pas de réquisitionner les cheminots.
Et au passage, voilà le même éditorialiste qui encensait Sarkozy il y a quelques années lorsqu'il était président, qui montre que Sarkozy a failli et que contrairement à ce qu'il annonçait, le service minimum ne pourrait pas être garanti.
Oui, à quoi ça sert le service minimum si ça marche pas? C'était ça en gros le discours. C'est pareil, sur toutes les chaînes, il y a eu un chapitre service minimum pour déplorer que le service minimum ne fonctionnait pas, contrairement aux promesses de Nicolas Sarkozy qui lui-même n'a pas su mobiliser la troupe pour faire rouler les trains.
Quelle place est faite dans tout ce dispositif que vous nous décrivez pour la voix des grévistes, pour la voix des cheminots par exemple, ou des étudiants? Parce que c'est ici que ça se passe l'information, c'est dans cette arène, il y aura des représentants de toutes les parties, des politiques, des syndicalistes et des experts. Alors quelle place pour les syndicalistes?
Et vous pourrez vous faire votre idée, voilà. C'est ce que dit David Pujadas tous les jours.
Fair and balanced, comme disait Fox News.
Alors, les opposants à cette grande coalition d'éditorialistes et les défenseurs de la SNCF et du service public sont quand même présents sur ces plateaux. Hein. Il faut pas croire que c'est totalement univoque. Il y a bien ce pluralisme qui est représenté, mais le problème, c'est que ces gens-là sont toujours seuls sur le plateau, entourés de 3 ou 4 éditorialistes, chroniqueurs, experts très libéraux, avec un présentateur ou une présentatrice, animateur, animatrice qui va dans le même sens. Et du coup, le cheminot qui est là pour représenter ses camarades est complètement isolé, se retrouve comme face à un tribunal. Quoi. Il est vraiment en position d'accusé face à un tribunal et on n'est plus dans un débat d'égal à égal. Surtout que, malheureusement, le cheminot se trouve tellement en position d'accusé qu'il a tendance un peu à s'énerver. Et je le comprends, je le trouve déjà courageux d'aller affronter toute cette clique. Du coup, il a tendance quelquefois à s'énerver un peu, on comprend, mais ça le dessert un petit peu. En plus, il n'a pas forcément le langage onctueux de ses prêcheurs de salon. Du coup, le représentant des salariés est toujours vraiment très maltraité, je trouve.
En France, on a toutes sortes de choses.
TF1.
Le rock'n'roll.
Les sauvageons.
Des fonctionnaires.
Une gauche molle et technocratique.
Le CAC 40.
Des pauvres.
Zidane.
Les
racistes.
La pauvreté.
L'UMP.
Les exclus.
Jean-Marie Le Pen.
Les prisons.
La Marseillaise.
Travail, famille, patrie.
Vigipirate.
Alain Juppé.
Le flashball.
Le cannabis.
Les mendiants.
La langue de bois.
Drucker.
La tour Eiffel.
Les 35 heures.
L'équipe de France.
Jacques Chirac.
Les bavures.
Cassoulet.
L'insécurité.
La civet de lièvre.
Les sans-papiers.
Un chou farci.
L'éducation nationale.
Et du boudin.
Etc.
En France, on a toutes sortes de choses. Pourtant, une chose nous manque. Une chose essentielle.
La gauche.
La gauche.
La gauche.
La gauche.
Les valeurs de gauche. Les valeurs de gauche. Les valeurs de gauche. Les valeurs de gauche.
Alors Samuel Gontier, lundi, s'est enfin annoncé. Emmanuel Macron va parler. Et voilà nos commentateurs et nos experts médiatiques qui sont repartis d'une frénésie de commentaires en boucle. Et alors, tout le monde s'extasie de l'intelligence du coup de médiatique, du coup de com'. Tout le monde commence à dire « Ah mais c'est très bien parce que Jean-Pierre Pernaut, c'est la cible des retraités qui sont chez eux et donc le président va s'exprimer directement auprès de la France profonde de TF1. »
Voilà, pour une fois, Emmanuel Macron va être confronté à la vraie France, celle que Jean-Pierre Pernaut montre tous les jours dans son JT de 13h, et cette vraie France qui s'exprime beaucoup dans son JT à travers les nombreux micro-trottoirs sur les marchés qui composent à peu près la moitié de son JT. Et évidemment, à la pointe de cette défense du JT de Jean-Pierre Pernaut, il y a LCI, la chaîne info filiale de TF1, et donc qui va mettre vraiment quasiment l'intégralité de son antenne au service de l'événement qui arrive sur la chaîne mère.
C'est presque du publi-reportage sur Jean-Pierre Pernaut qui passe sur la chaîne du même groupe.
Voilà, et du coup on se retrouve à faire un éloge conjoint d'Emmanuel Macron et de Jean-Pierre Pernaut, ce qui donne des choses absolument sidérantes, parce qu'a priori ce ne sont pas tout à fait les mêmes personnages.
Donc l'événement tout à l'heure sur LCI et TF1, un format du 13h, inédit donc pour Emmanuel Macron. Pourquoi d'ailleurs ce choix du président de la République?
D'abord l'audience, Pascal. C'est non seulement l'une des plus fortes audiences de la télévision, mais le JT le plus regardé d'Europe.
Ah, il est décontracté, Jean-Pierre.
Quant à Jean-Pierre Pernaut, c'est non seulement le présentateur télévisé préféré des Français, c'est ce que disent les sondages.
Ah, c'est un très grand professionnel, a-t-on encore besoin de le dire?
Mais en plus, il est, selon le journal du dimanche, la 16e personnalité préférée des Français. Eh oui.
On a vu Jean-Pierre Pernaut regarder sa montre, quand même.
Puis c'est un journal, évidemment, qui séduit aussi les personnes âgées, avec qui le président est en froid. endroits, et la France rurale, la France des territoires qui, elle, a aussi parfois le sentiment d'être délaissée.
La beauté des régions, on s'en lasse
par
pas.
Le président des villes et de la globalisation.
Jean-Pierre Pernaut, ils le sentent plus proche d'eux. C'est-à-dire que Jean-Pierre Pernaut, tous les jours, il parle de la France dans son journal. Oui. Le problème d'un homme politique, c'est qu'il donne l'impression de venir et puis après d'être de nouveau coupé. Et c'est cette rencontre-là qui se joue.
Et alors là, tout le monde s'accorde à dire que ça va être une occasion d'aller plus loin dans la pédagogie, mais cette fois-ci directement de la bouche présidentielle et non plus simplement de Christophe Barbier et de tous les autres commentateurs qu'on a entendus jusqu'à maintenant.
Oui, et dans un cadre tout à fait naturel et normal, TF1 et surtout LCI insistent bien là-dessus, la classe où l'entretien est enregistré est restée dans son jus, à peine si le ménage a été fait, l'école se poursuit normalement, la vie du village se poursuit normalement, et tout ça grâce à Jean-Pierre Pernaut, qui a lui-même choisi l'école lui-même. La présidence Emmanuel Macron n'a été absolument pour rien dans ce choix, apparemment il a été averti au dernier moment, juste quelques heures avant, et il arrive dans un village totalement pacifié, où la vie se déroule normalement, puisque c'est la vie quotidienne normale. Et un village magnifique, d'ailleurs, dit Jean-Pierre Pernaut, avec des plans de drones qui montrent effectivement un village niché dans un écrin de verdure, comme on l'imagine et comme on le rêve.
Les images, vous le voyez en direct, des coulisses, finalement, Jean-Pierre Pernaut au milieu des tout-petits.
C'est très sympa, ces images avec les enfants.
C'est une interview qui doit être au plus proche du quotidien des Français, un journal regardé par plus de 5 millions de téléspectateurs.
En fait, on apprend quelques minutes après, par une reporter sur le terrain, qu'en fait, il n'y a pas d'opposants, effectivement, ni de manifestants, puisqu'ils ont été maintenus à 3 km du village par des barrages de gendarmerie qui empêchent d'éventuels opposants d'approcher du village. Voilà. Et après, il y a quand même aussi des gens, des vrais gens qui sont là, puisque le principe, c'est de montrer des vrais gens. Donc, ces vrais gens qui sont acceptés au sein du village, au sein de l'enceinte, du périmètre de sécurité, ce sont plutôt des gens à l'image du journal de Jean-Pierre Pernaut, des gens plutôt âgés. Ils ne portent pas de banderoles, ils ne sont pas syndiqués, ils n'ont pas de haut-parleurs. Ils ne vont pas venir crier des choses désagréables dans les oreilles de Macron.
Les petits maires de campagne ruraux comme moi, on est fiers d'avoir un président comme vous et je sais que vous tenez à la réalité, que vous allez défendre la réalité. Merci,
bravo,
monsieur le président.
Merci.
Bravo, monsieur le président.
Rien n'a été retapé, tout est normal, c'est la vie quotidienne normale d'un jour normal.
Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron va accorder une interview. Ce sera le premier volet de cette semaine médiatique dans une école de cette commune.
Le président de la République, en plein contexte social agité, a choisi l'endroit, un village normand à 150 km de Paris.
Merci d'être venu nous écouter et merci pour la suite.
Je reviens après.
Un petit sourire.
Ouais.
Tout ce que je fais, je l'ai dit. Je l'ai expliqué.
Alors voilà pour le dispositif de cette grande interview où enfin le président intervient dans le climat social en cours, tendu, et avec les différentes mobilisations, que ça soit les étudiants, que ça soit la défense des services publics, ou même Air France, qui doit être les avocats cette semaine. Et là, ce que vous releviez sur le fait que le terme de prise d'otage était un peu trop chargé émotionnellement après les séries d'attentats qu'a connu la France et que maintenant on parlait plus de gréviculture. Mais là, sur TF1, on ne prend pas de telles précautions.
Non, l'expression prise d'otage sur TF1 a toujours cours, elle n'est pas taboue. Et effectivement, pour lancer le sujet de la grève des cheminots, pour donner un petit peu le contexte, Jean-Pierre Pernaut a proposé un nouveau micro-trottoir, cette fois-ci dans des gares, où on n'entendait que des usagers excédés, selon Jean-Pierre Pernaut, qui disaient « c'est la cata, c'est la merde, c'est la galère, on est pris en otage ». Et évidemment, aucune parole de cheminot. Retour dans la salle de classe avec Emmanuel Macron et Jean-Pierre Pernaut, qui forcément dit « c'est la galère, comment vous allez faire pour que les gens puissent voyager ?» Il ne se préoccupe pas une seule seconde du problème de la réforme de la SNCF. Et Emmanuel Macron va aller dans son sens, tout en disant qu'il ne faut surtout pas opposer les voyageurs, les usagers et les cheminots. Il va lui-même regretter que la grève des cheminots handicape beaucoup les usagers, y compris dans nos campagnes, bien sûr, et surtout les entreprises qui risquent de faire faillite à cause des cheminots.
Tout au long de ce journal, on entendra des témoignages et on verra des reportages. Je poserai au président les questions que vous vous posez. Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour, Jean-Pierre Pernaut.
Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est une grande première, surtout dans un cadre comme celui-là.
Moi, ce qui m'a semblé intéressant aussi, c'est la séquence plus économique.
Monsieur le Président, il nous reste 5 minutes avant de devoir terminer cette édition. Je voudrais qu'on revienne à l'économie parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, le climat social qui s'alourdit, mais il y a quand même pas mal d'entreprises qui vont mieux. On l'a vu avec la croissance qui reprend. Et on va commencer avec un témoignage.
Une sorte de micro-trottoir, mais dans une entreprise où le premier ouvrier, le premier salarié rencontré expliquait qu'il aurait bien voulu faire plus d'heures supplémentaires pour avoir plus d'argent.
Travailler plus pour gagner plus, ça me rappelle quelqu'un ça.
Donc défiscaliser les heures supplémentaires, ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy, ce que réfléchit à faire le gouvernement paraît-il. Et puis la deuxième personne interrogée, c'est le patron qui félicite en gros le gouvernement pour sa loi travail, pour la manière qu'il a de libérer le marché du travail. Donc ce chef d'entreprise décrit une embellie depuis l'arrivée de Monsieur Macron. Et du coup, forcément, retour dans la classe. Et là, Monsieur Macron ne peut que se réjouir de ce qui a été dit et explique que les mesures qui ont été prises ont été très bien montrées dans ce reportage.
Vous vouliez dire que ce plan communication était peut-être bien huilé, bien préparé, Samuel Gantier ?
Ah non, pardon, excusez-moi, ça s'est arrivé dans un village normal qui vivait son quotidien normal et personne n'était prévenu.
Tout ça a été choisi par Jean-Pierre Pernaud en personne.
Voilà.
Des endroits superbes, des villages superbes, superbes endroits aussi.
Mais enfin bon, au moins là, c'est un président qui a écouté la colère de la France d'en bas.
Vous nous avez donné les clés, à moi et à ma bande de salauds. Alors sur un yacht au Phuket, on se marre. On danse et on se marre, on danse et on se marre de vous voir tous bouche bée devant vos droits cambriolés, bafoués, brûlés, cassés. Mes petits frères des 53%, c'est pour ma mort que vous voterez. Quand la pancarte du médecin sera Bouygues, quand la poste sera Bouygues, quand le train sera Bouygues, quand l'école de ton môme sera Bouygues, quand ta mère crèvera à faute de pouvoir payer Bouygues, dis-moi. Dis-moi, c'est la peur qui t'a amené là, c'est ça? La peur t'oublisse la haine. Alors merci, merci, merci. Merci la haine, merci la honte. Merci la haine, merci la honte. Je cambriole vos écoles, vos tribunaux, vos hôpitaux. C'est le hold-up des cravates. Des cravates tirent au cordeau. Vous nous avez donné les clés, à moi et à ma bande de salauds. Mais qui, mais qui, mais qui, mais qui, mais qui, mais qui, mais qui leur a donné les clés? Mais qui? Jamais de, jamais de circus sarconon. Car chez nous, on accepte les faibles. On prend même tous les faibles. On prend même que les faibles. Et on embourre notre révolte foraine. C'est le politique speedbox circus qui jamais ne sera à la traîne notre convoi d'inutile, de moche, d'imbaisable, d'un rentable, d'insolvable, d'incapable qui ville après ville, soir après soir, toi avec moi, lui avec elle, faible fière que nous sommes, redorons sous la toile l'humanisme déchu de nos étoiles résistantes. Jamais de circus sarconon, jamais de circus sarconon, jamais de circus sarconon. Car chez nous on accepte les faibles, on prend même tous les faibles, on ne prend même que les faibles, et on embourre notre révolte foraine. C'est le politique speedbox circus qui jamais ne sera à la traîne notre convoi d'inutile, de moche, d'imbaisable, d'inrentable.
Ma vie au poste aux éditions La Découverte, c'est le nom du livre de Samuel Gontier, mais aussi c'est le nom de son blog et de sa chronique que vous pouvez retrouver sur Télérama. Je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour ce week-end, puisqu'il y aura, je vous le rappelle demain, l'interview de Bourdin et Plenel avec Macron, dont il va extraire la substantifique moelle et qui sera, je l'espère, un peu moins mielleux que le 13h de TF1.